commencer par une belle journée d'été. Non, une journée d'automne pluvieuse. Non, je plaisante. Une journée du début du mois d'août, mais pas une journée chaude comme l'on peut s'imaginer, où les cigales chantent à tue-tête à l'heure de la sieste. Eh bien non, donc, c'était une journée pluvieuse ressemblant à une journée du mois de novembre. Après avoir bravé les intempéries, je suis arrivée au théâtre de l'usine à Saint-Céré. Et pendant 2 heures, j'ai oublié le temps pluvieux de l'extérieur et j'ai été transportée dans un autre monde. Dans un monde magique et musical. Mais qu'allais-je donc faire au théâtre de l'usine de Saint-Céré ? Pas compter les perles, je vous l'assure. Mais j'allais promener mon micro et faire une interview de 2 des 10 musiciens en résidence d'artistes et qui répétaient, et plus particulièrement cet après-midi-là, un sextuor de Pascal Zavaro. La houlette bienveillante de Jean-Baptiste Henrial, le tout nouveau conseiller artistique du Festival de Saint-Céré, j'ai pu ainsi écouter 6 musiciens concentrés qui répétaient leur programme du concert Vent de Jeunesse. Bien nommés, car oui, ils sont jeunes ces musiciens. J'ai ainsi découvert Eva Zavaro au violon, Raphaël Moreau également au violon et encore un 3e violoniste, Ryo Kojima, Mathis Rocha à l'alto, Adrien Bellhomme au violoncelle et enfin Guillaume Fabre au piano. Tous ces musiciens qui répétaient donc un sextuor de Pascal Zavaro et le concert opus 21 pour violon, solo et quintette à cordes avec piano d'Ernest Chausson. Ne manquait que Raphaël Sévère, l'étoile montante de la clarinette, devant arriver le lendemain. J'ai pu discuter donc autour du micro avec 2 d'entre eux, Eva Zavaro, violoniste, et Mathis Rocha, altiste. Alors Eva Zavaro, jeune violoniste virtuose qui a étudié entre autres au CNSM de Paris avec Rolando Garay, Suzanne Gessner et Christophe Poiget et qui s'est perfectionnée auprès de Julia Fischer à Munich. Jeune violoniste mais au talent fou et qui a déjà joué comme soliste et chambriste sur les scènes de la Philharmonie de Paris, la Philharmonie de Berlin, au Mariinsky Concert Hall de Saint-Pétersbourg et bien d'autres salles encore. Et Mathis Rocha, altiste, 1 an de plus qu'Eva et également un talent fou. Il est tout comme Eva, soliste et chambriste. Alors il s'est formé auprès d'Antoine Tamesti à Cologne dès l'âge de 15 ans, avant de poursuivre ses études chez Tatiana Mazurenko à Leipzig. En 2019, Mathis Rocha a notamment fait partie de l'élite internationale des jeunes altistes qui se produira en récital au Festival des sommets musicaux de Gstaad. Donc, interview de ces 2 artistes. Bonjour Eva, bonjour Mathis.
Donc aujourd'hui, alors vous avez répété un septuor.
Sextuor.
Un sextuor, sauf qu'aujourd'hui il en manquait un, hein, il manquait Raphaël Sévère à la clarinette. Et une œuvre de
Pascal Zavaro.
Pascal Zavaro. Alors Pascal Zavaro, c'est votre père.
C'est
Eva.
Mon père, oui, tout à fait, qui est compositeur.
Qui est compositeur.
C'est son métier.
Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ensemble cette œuvre ?
Oui, alors on l'a vraiment découverte aujourd'hui. Enfin, Eva nous a envoyé les partitions avant avec un petit peu un enregistrement pour se repérer. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on la joue ensemble aujourd'hui. Mm-hmm. Donc on découvre toutes les facettes de l'œuvre en répétition.
Est-ce que c'est difficile la vie en résidence d'artiste ? Comment ça se passe une journée en résidence d'artiste ?
On commence déjà par se mettre bien. Donc ce matin, on a fait un petit peu d'exercice physique. Et puis après, tout le monde se retrouve, on commence lentement les répètes. En général, ça dure quand même un peu toute une journée, donc les répètes sont réparties sur toute la journée. Et puis, voilà.
On fait comme tout le monde, on a une pause déjeuner. Parfois, quand on a une concentration qui flanche, on prend une pause de 5 minutes pour prendre un petit bout de chocolat ou aller prendre l'air, ou pour certains, fumer une cigarette. Donc c'est un travail qui se déroule sur toute la journée et on essaye de maintenir une bonne humeur et que ce soit vraiment agréable en fait, de travailler, parce que c'est l'été et pas de violence, c'est les vacances. Même si on travaille en musique, ça reste quand même... ça reste quand même intense de faire de la musique toute la journée, donc on essaye de se ménager aussi des instants un peu plus légers.
Oui, il faut quand même se reposer un petit peu.
Oui.
Puis le corps le réclame
puis
aussi.
La région est tellement belle, il faut quand même pouvoir regarder autour de soi, profiter de la verdure, du soleil qui n'est pas tout à fait là encore, mais on l'espère, on l'attend.
On va dire que c'est l'été. C'est la première fois que vous venez dans la région, Eva ?
Oui, enfin je crois qu'il y a un festival pas très loin, la Vézère.
Oui, le festival de la Vézère, voilà, oui, qui n'est pas, pas très très loin.
Après, j'avais joué à un festival aussi à Pamiers, mais ça non plus, c'est pas très 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 proche.
Oui, c'est la région Occitanie, mais c'est l'Ariège, donc ouais, c'est un petit peu plus loin.
Voilà, dans le Lot, j'étais encore jamais venue.
Et Mathis, c'est la première fois ?
Alors moi, je suis venue à Marzac. Je sais pas, c'est plutôt dans le Tarn-et-Garonne. Je crois que c'est un peu plus au sud encore. C'était bizarre. C'était mon premier festival de musique de chambre de ma vie, en fait.
Oh.
C'était à Marzac et c'était une expérience inoubliable. Et je me rappelle que j'avais joué beaucoup de musique française et que cette musique, maintenant, je l'associe directement au paysage de Marzac. Et puis, justement, donc, ça ressemble pas mal à ici. Donc, j'ai hâte, vraiment très hâte de répéter le chausson aujourd'hui parce que je pense que ça va directement me reprojeter dans cet univers dans lequel je m'étais vraiment très, très bien senti il y a une dizaine d'années maintenant.
Alors une question qu'on doit vous poser souvent, c'est une question très bateau, mais bon tant pis, je la pose quand même. Alors je vais commencer par Mathis. Allez, honneur aux hommes, il y a un homme pour deux femmes là autour du micro. Mathis, à quel âge vous avez commencé la musique ? Est-ce que vous avez commencé par l'alto ?
Alors j'ai commencé par le violon, mais donc j'ai commencé à 7 ans le violon. Mais bon, mes deux parents sont musiciens, donc on a commencé très tôt à écouter la musique. Ma grande sœur faisait du violoncelle, donc en quelque sorte, j'ai un peu commencé dès le début, quoi. Dès que je suis sorti du ventre, il y avait de la musique autour, donc voilà. Mais j'ai appris le violon à partir de mes 7 ans, et puis j'ai bifurqué pour prendre l'alto quand j'avais 11 ans. Donc je suis pas resté très longtemps violoniste, mais.
Et comment on bifurque du violon à l'alto, par goût ?
Alors moi c'était vraiment par... je pense qu'on a tous un petit peu une... Quand on apprend à s'exprimer mieux sur l'instrument, on se rend compte que la voix qu'on a sur l'instrument doit correspondre à ce... Pas forcément notre voix humaine, mais ce qu'on entend à l'intérieur de nous. Et j'avais l'impression que le violon ça correspondait plus vraiment à ce que j'avais envie d'exprimer. La manière dont la voix que je voulais trouver en tout cas avec mon instrument, donc j'ai pris cet instrument qui est plus grand et qui correspondait mieux à ma voix quoi, donc c'est comme ça que j'ai changé.
Et alors vous Eva, vous avez commencé à quel âge le violon ? Mais vous êtes restée au violon ?
Moi je suis restée au violon aussi parce que ma mère était violoniste, donc finalement c'était un peu pour faire comme maman.
Aussi une famille de musiciens, aussi, donc une maman violoniste et un papa...
Ça manque cruellement d'originalité.
Et un papa compositeur.
Mes deux parents sont musiciens et donc comme Mathis, j'ai baigné dedans depuis le moment où j'ai été expulsée du ventre de ma mère. Et même avant, probablement, parce que la vie ne commence pas apparemment à la naissance, mais déjà avant. Donc probablement, j'en ai entendu même en étant dans le ventre de ma mère. Et j'ai commencé le violon vers 4 ans et demi, 5 ans, d'abord d'une initiative un peu personnelle. J'ai demandé à avoir un violon joué, donc j'ai commencé à en jouer comme ça, sauvagement. Et puis après, j'ai déclaré que non, je ne sais pas en jouer, donc je n'en jouerai pas. Et finalement, c'est à 5 ans que j'ai été inscrite au conservatoire et que j'ai appris à en jouer, parce que oui, ça s'apprend. Et longtemps d'ailleurs.
Ça s'apprend encore pour vous?
Oui, je pense qu'on apprend toute la vie. Et puis, vous avez assisté tout à l'heure à une première répétition d'une œuvre qu'on est en train d'apprendre finalement. Donc, il faut être humble et être dans l'apprentissage permanent. Et c'est ça qui rend notre métier passionnant aussi. Mm-hmm. On n'a jamais assez d'apprendre.
Alors, vous qui êtes de jeunes artistes, est-ce qu'en ce moment, avec la période que nous vivons, est-ce que c'est difficile pour vous de mener une carrière, de commencer comme ça à poser des jalons sur une carrière en sachant que finalement, les mois passés ont été difficiles et on ne sait pas trop où on va encore malheureusement. Est-ce que c'est difficile pour vous là en ce moment ?
Oui, c'est très très difficile parce que là, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan des autorisations, des jauges. Je ne sais pas si les organisateurs vont pouvoir organiser leurs concerts. Ici, on a eu de la chance de pouvoir un peu s'adapter et d'accepter aussi le pass sanitaire, mais évidemment, c'est pas simple pour tout le monde. Je crois que tous les organisateurs sont à bout et parfois, ils sont contraints d'annuler. Donc pour nous, c'est aussi un peu les montagnes russes, de se préparer jusqu'au dernier moment, puis finalement, une annulation. Et puis, je pense qu'à plus long terme, il y aura des conséquences forcément financières de toute cette pandémie. Et on ne sait probablement, la culture va en être fortement impactée. Et voilà, il y a cette angoisse de nous, musiciens. Est-ce qu'on ne va pas finalement être coupé un peu dans notre élan? Et est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, la dernière roue du carrosse? Mais moi, je veux penser qu'on aura toujours besoin de culture, surtout dans les moments les plus sombres et les plus désespérés. Donc pour nous, en tant qu'artistes, ça ne change rien. On joue et on aime ce qu'on fait. Et on essaye de le faire avec autant d'engagement que possible. Après, voilà, c'est vraiment dans les faits et en pratique qu'on voit que, peut-être qu'il y aura moins de concerts, un peu moins bien payés et qu'il faudra travailler plus pour reconstruire quelque chose. Donc, on a une petite responsabilité là-dedans. Mais voilà, mais notre âme de musicien vibre toujours aussi fort, je pense, même plus.
Alors, on s'imagine souvent que les musiciens, vivent très bien, etc. Mais vous, par exemple, vous êtes intermittent du spectacle? Vous avez ce statut?
Non, moi je ne l'ai pas. Toi tu l'as, Mathis?
Mathis?
Je ne l'ai pas encore non plus parce que j'ai habité très longtemps en Allemagne en fait. Je viens seulement de déménager en France. Donc je ne pense pas que j'aurai exactement le bon nombre de cachets pour l'instant. Est-ce que je veux le devenir? Oui, parce que c'est clair que c'est une aide qu'on a vraiment exclusivement en France qui est très cher, mais souvent, on vient de signer un bail avec ma copine à Paris pour un appartement, et puis on se rend vite compte que les gens sont contents qu'il y ait l'intermittence pour les artistes, mais quand on dit qu'on est intermittent, on est chômeur, quoi. Donc c'est très difficile d'avoir des appartements à Paris en tant qu'intermittent, même si c'est la seule manière en fait de vivre en tant qu'artiste indépendant en France. Mais j'aime vraiment pas le terme en fait. J'aime pas le fait que ça fasse partie du chômage parce que ça n'aide pas justement à changer l'image de l'art et de la musique comme quelque chose qui est vraiment nécessaire. Parce que si c'est des chômeurs qui le font, forcément qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte si c'est vraiment un travail ou pas. Donc j'aime pas vraiment le terme de l'intermittence, le concept qu'il y a derrière. Mais bravo, bien sûr qu'on va pas refuser ça. C'est très très important en France. Il n'y a pas ça en Allemagne. Il y a beaucoup beaucoup plus d'orchestres, donc énormément de culture en Allemagne, mais elle est plus répartie dans les orchestres que dans les indépendants, donc dans les freelances et compagnie.
Alors là, vous jouez en quatuor, en septuor, en sextuor. Donc en fait, je pense au programme du concert Vent de Jeunesse. Mm-hmm. Donc vous allez jouer le concert de Chausson, d'Ernest Chausson. Donc en fait, vous, Eva, vous êtes soliste.
Oui, en fait, c'est une œuvre un peu hybride, puisqu'elle lie un quatuor à cordes avec un piano qui a une grosse partie concertante et un violon un peu solo, un peu soliste. Donc il y a ce quatuor à cordes et ce piano qui joue comme le rôle d'un orchestre qui accompagnerait un concerto. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle un concert. C'est un peu une version francisée du terme concerto, qui est un mot italien en fait. Et c'est une œuvre un peu fleuve, parce qu'elle fait presque 45 minutes, voire un peu plus, en 4 mouvements. Donc il y a quelque chose de très imposant. C'est vraiment une œuvre quasi symphonique, avec seulement 6 instruments.
Et alors, est-ce que c'est difficile de passer... Donc dans cette soirée-là, vous allez être soliste, mais après, vous ne serez plus soliste.
Oui, alors dans l'ordre, je serai d'abord...
Quatuor à cordes.
Alors moi, je ne vais pas jouer dans le quatuor à cordes, je vais laisser ça à mes deux autres amis violonistes.
Mathis, par exemple.
Mathis qui est altiste, oui, mais il y aura Raphaël Moreau, Ryo Kojima au violon, Mathis Rocha à l'alto et Adrien Bellhomme au violoncelle. Et ensuite, je vais les retrouver aussi avec Raphaël Sévère et avec Guilhem Fabre au piano pour jouer donc l'œuvre de mon père, dont vous avez entendu quelques extraits. Et ensuite, nous allons faire le chausson. Donc, je vais d'abord être chambriste et après un peu plus soliste. Mais moi, la différence, elle est minime, parce que pour moi, en tant que violoniste, même quand je suis soliste, je joue avec d'autres musiciens. Que ce soit un orchestre ou un piano en récital, je n'ai pas le luxe de pouvoir être juste pianiste et de pouvoir faire un récital vraiment en solo, avec que des œuvres pour mon instrument seul. Donc, je trouve que même... quand on dit soliste, en fait, la base du jeu en soliste, c'est la musique de chambre, puisqu'on joue avec les autres, il faut écouter les autres, il faut partager avec les autres. Donc la différence pour moi, elle n'est pas énorme, en fait.
D'accord. Et est-ce que c'est difficile aussi de passer d'un répertoire à un autre ? Parce que finalement, là, pendant cette résidence, alors vous passez du 19e siècle avec Ernest Chausson, 20e siècle avec votre père, Pascal Zavaro. Après, vous allez jouer Mozart.
Oui.
Et du coup, Eva, c'est difficile de passer d'un répertoire à un autre ?
Oui, je dirais que c'est un petit effort en plus. Parce qu'il faut passer d'un univers à un autre. Avec toute la différence d'énergie physique que ça implique, parfois il faut donner plus avec un certain type de répertoire, ou parfois au contraire d'un coup se retirer. Alors j'ai essayé de construire la plupart des programmes un peu en privilégiant les formes plus classiques au début, pour créer une espèce de base et pouvoir après rajouter par-dessus en énergie et en dynamisme. Mais plus on joue de compositeurs différents, j'ai remarqué, je sais pas si t'as cette sensation là Mathis aussi, plus on joue de compositeurs et de styles différents, plus les concerts sont fatigants en fait, parce que justement c'est vraiment comme de passer d'un décor à un autre et de faire plusieurs kilomètres ou plusieurs années-lumière en fusée en fait. Il y a quelque chose de... ouais, on fait vraiment un saut. Et donc ce saut là il demande plus d'énergie, je trouve.
Est-ce que vous avez l'habitude de jouer ensemble, là, tous ? Alors, tous les musiciens qui sont là, par exemple, aujourd'hui, ça vous arrive de jouer ensemble ? Pas qu'à s'insérer, hein, mais...
Oui, alors, par exemple, il y a des gens avec lesquels je joue depuis 10 ans. Par exemple, Adrien, ou dans les musiciens qui viendront plus tard dans le festival. Mathis, on a joué pour la
promotion. On a joué ensemble, ouais, pendant le festival des vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay l'année dernière. Et puis, c'est vrai que c'était assez intense. On a quand même joué pas mal de pièces... ensemble, mais c'est vrai que c'est la deuxième fois en fait seulement qu'on joue ensemble.
Moi j'ai eu un coup de foudre pour le jeu de Mathis, et donc c'était important pour moi de pouvoir le faire venir.
Je rougis légèrement, mais ça ne verra pas.
De continuer à partager la musique avec lui, parce que c'est tellement rare les personnes qui ont vraiment une vraie personnalité à l'instrument, une vraie fibre de musique de chambre et une écoute, et donc quand je rencontre ces personnes-là, je m'y accroche.
Oui, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Ce n'est pas seulement jouer, mais c'est aussi écouter. Vous écoutez les uns les autres sans arrêt. Hein. C'est vraiment un énorme travail d'écoute. Hein.
Mais je ne sais plus qui disait, je crois que c'était un grand quartettiste. Je me demande si ce n'est pas un des membres du Quatuor Amadeus qui disait que le Quatuor à cordes, c'est 90% d'écoute et 10% de jeu. En fait, on n'a pas fini de faire de progrès en fait dans cette dimension-là. C'est qu'il faut toujours plus écouter que vraiment jouer. Et les bons chambristes, je crois que c'est vraiment ceux qui ont cette capacité-là.
Allez, une avant-dernière question. Mathis, vous jouez sur quoi comme alto ?
Alors moi, c'est un alto de Pierre Vidoudet. C'est un alto suisse, comme moi, qui vient de Genève. Hein. Oui, mais je suis franco-suisse, je le précise, parce qu'hier, il y a eu encore une petite confusion avec Eva. Mais donc, oui, c'est un alto suisse de 1949. Voilà. Et c'est le mien, donc je suis très, très content de le posséder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas leur propre instrument, donc on ne sait jamais trop combien de temps on va le garder. Et là, ça fait vraiment plus de 10 ans que je joue et il fait ce voyage avec moi. Je change parfois quelques petites choses dessus, mais j'ai l'impression de comme la musique d'ailleurs, comme tout, de chaque fois redécouvrir l'instrument. Ouais.
Et Eva, vous jouez sur quel violon ?
Alors là, l'instrument que j'ai la chance d'avoir, c'est un Stradivarius en fait, mais un Stradivarius composite avec donc la partie supérieure de l'instrument est plus récente que la partie, donc le dos du violon. Donc c'est pour ça que c'est un instrument entre guillemets encore abordable, c'est parce qu'il est de deux époques différentes de Stradivarius. Voilà, j'ai cet instrument en prêt, évidemment il n'est pas à moi.
Oui, je me doute, hein.
Voilà. et je découvre toutes ces facultés. Voilà.
Et Mathis, c'est quoi votre actualité après Saint-Céré?
Alors je vais à Davos pour un festival de musique, donc ça n'a rien de politique. Généralement, on connaît Davos pour son aspect, enfin pour tout ce qui se passe en termes de forums économiques et internationaux et tout ça. Et puis j'y reste en résidence du coup pendant 2 semaines, avec plusieurs petits concerts aussi répartis dans ces 2 semaines.
Et vous, Eva ?
Moi, j'aurai un récital à Sully-sur-Loire le 15 août, avec un pianiste qui s'appelle Nathanaël Gouin, qui vient d'ailleurs de Toulouse. Donc il n'est pas très loin, il viendra à la fin de la semaine ici répéter avec moi. Comme ça, on n'aura pas à le faire juste avant. Et voilà.
Bien. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous laisse continuer votre pause.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci encore à vous deux, Eva Zavaro et Mathis Rocha. Merci également à vous tous, artistes, de m'avoir permis d'enregistrer quelques sons durant votre répétition. Bon vent à vous, en espérant que la culture et la musique restent essentielles, que vous puissiez traverser ces moments de crise et de turbulence et que surtout, vous puissiez continuer à nous faire rêver. Retenez bien ces noms, vous entendrez parler d'eux à n'en pas douter. Et merci au Festival de Saint-Céré d'avoir invité tous ces jeunes chambristes. Merci également à l'équipe du festival pour leur accueil, notamment Chloé Monange, stagiaire chargée des relations presse, et Jean-Baptiste Henria, conseiller artistique du festival.